Et bonjour tout le monde, ça va bien? Vous êtes en forme? Juste avant d'introduire le passage qu'on va regarder ensemble ce matin, on voulait simplement vous partager les anciens, les pasteurs de l'Église ici, dans le fond toute l'équipe. On a pris une petite retraite deux jours, et puis en fait on a un intrus avec nous. Je vais quand même vous le présenter vite, complètement à gauche. On a Adam qui est avec nous, qui est un des jeunes hommes en formation pour le pastorat ici, qui est venu nous accompagner, qui prenait des notes pour nous. Mais on voulait simplement vous mentionner qu'on a eu du bon temps vendredi, samedi. On est parti pendant deux jours pour faire un bilan de l'année, voir où est-ce qu'on est rendu dans notre progression, dans la vision, tout ça, discuter de questions pastorales et regarder qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année. Et vraiment, c'est un privilège de travailler avec cette belle équipe-là. C'est vraiment une grâce. Alors, vous pouvez tourner avec moi dans Luc, s'il vous plaît. On va aller à Luc 21. Et ce matin, je vais introduire un peu plus longuement le passage parce qu'on rentre dans une nouvelle séquence, si je peux dire, une nouvelle section dans l'Évangile de Luc. Et il y a une série de miracles que Jésus va faire qui vont préparer le terrain pour que Jésus dévoile un peu plus qui il est, pour que Jésus en vienne à poser une question. Et donc, on va le survoler rapidement et ensuite de ça, Luc Panton va venir nous lire toute la section où Jésus pose sa question et puis on voit la réponse des disciples, d'accord? Alors, ce qui se passe, il y a une série de miracles qui vont se produire et à travers cette série de miracles-là, Jésus est en train déjà de se dévoiler. Il est déjà en train de se révéler. Un premier miracle qui va se passer, c'est que Jésus va prendre autorité sur les eaux. Les disciples sont dans la mer, sont dans une barque en train de traverser la mer et Jésus est avec eux, une tempête survient et puis les disciples se mettent à paniquer, se lèvent, vont réveiller Jésus. On est en train de mourir, qu'est-ce qui va se passer? Voici ce qu'on lit, d'accord? Dans Luc 8, 24, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons! » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, au verset 25, « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? » Ensuite de ça, on continue le récit et puis Jésus va accoster et un individu va se présenter devant lui qui est phénomène surnaturel possédé par des démons. Maintenant, particularité dans ce cas-là, il n'est pas possédé par un démon, deux démons, mais par une multitude de démons, nous dit le récit. Et tout de suite, l'individu va se manifester parce que les démons reconnaissent eux qui est Jésus, commencent à l'interpeller et Jésus va prendre autorité, va chasser les démons. Et cet homme-là qui vivait de manière, on pourrait dire, sauvage depuis plusieurs années, retrouve ses esprits, est complètement libéré de ça. Les gens qui le connaissaient, qui le craignaient dans la région, parce qu'il était dangereux, ne le reconnaissent plus du tout dans son comportement. Et voici ce qu'on lit dans Luc 8, 33-34. « Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. » Jésus continue son chemin et alors qu'il marche dans la foule, une femme qui est malade depuis des années, mais qui est extrêmement timide, qui n'est pas de celle qui va crier le nom de Jésus dans la foule, qui va dire « guéris-moi », avec une grande timidité, parvient simplement à toucher au vêtement de Jésus. Puis elle a la foi parce qu'elle sait que Jésus fait des miracles, puis elle dit « si je peux toucher à son vêtement, je vais être guéri ». Boum, elle est guérie à ce moment-là, un miracle, encore une manifestation surnaturelle de la puissance de Jésus. Et Jésus qui a perçu qu'il y a quelque chose qui s'est passé, pose une question à ce moment-là. On lit au verset 44, « Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement, et Jésus, au même instant, la perte de sang s'arrêta. » Là, Jésus va arrêter la foule, puis il va dire, « Il y a quelqu'un qui m'a touché, il y a quelqu'un qui a été guéri, il y a quelque chose qui s'est passé. » Puis la femme va venir, puis il va dire, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Mais Jésus est en route à ce moment-là pour aller chez un chef de la synagogue dont la petite fille était très malade, sur le point de mourir. Et Jésus s'en va là pour guérir cette petite fille-là à la demande du chef de la synagogue. Et pendant qu'il s'arrête pour s'occuper de cette dame-là, les serviteurs viennent rencontrer Jésus et disent « Oublie ça, arrête ça, c'est trop tard. Elle est décédée. » Jésus dit au chef de la synagogue « Aie la foi, ta fille n'est pas morte. » Luc 8, 54-55, il entre dans la maison du chef de la synagogue, prend la petite fille qui, de toute évidence, est décédée, mais Jésus dit non, pas encore. Prend sa main et d'une voix forte, « Enfant, lève-toi! » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Ensuite de ça, Jésus va envoyer ses disciples. Il va envoyer ses disciples par les villes. Et lorsqu'il les envoie, il leur donne le pouvoir de chasser des démons et de guérir des maladies. Luc 9, 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Là, ses disciples s'en vont par les villes annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et effectivement, ils guérissent des malades et chassent des démons. Lorsqu'ils reviennent, ils racontent le récit de toutes les choses extraordinaires qu'ils ont vues se produire là. Enfin, Jésus est en train d'enseigner à une foule. Et alors qu'il enseigne à cette foule-là, la journée est fort avancée, ils sont dans les campagnes, ils sont loin des épiceries, loin des dépanneurs 24 heures. Et la foule a faim. Alors les disciples commencent à dire, « Maître, il faut renvoyer la foule. Écoute, ils ont beaucoup de chemin à faire pour trouver de la nourriture. » Puis Jésus leur dit, « Mais pourquoi vous ne les nourrissez pas? » Ben là, on n'a pas un 10 roues. On est mal pris. Jésus dit, « Faites-les asseoir, apportez-moi ce que vous avez. » Jésus rend grâce. Et un miracle se produit encore. Quelques pains, quelques poissons sont multipliés jusqu'à nourrir toute cette foule-là. Luc 9, 16, 17. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit, les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que cette série de miracles-là préparait le terrain pour une énorme question que Jésus allait poser ensuite à ses disciples afin de révéler qui il était. On va prier ensemble et puis Luc va nous lire la suite du passage. Seigneur Jésus, ce matin, on veut te demander de venir nous aider à saisir qui tu es. Qui tu es dans ta gloire? Quelle est ta mission, Seigneur? Qu'est-ce que tu es venu accomplir? Et nous aider à comprendre, Seigneur, quel est notre appel à nous qui avons compris qui est Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions, Père. Amen. On va écouter la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre Luc, chapitre 9, versets 18 à 48, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Luc, chapitre 9. Verset 18-48. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Qui suis-je au dire des hommes? » Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. » « Et vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? » Pierre répondit « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons était appesanti par le sommeil. Mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuit vint le couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt, il poussa des cris. Et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. « J'ai prié tes disciples de le chasser. » Ils n'ont pas pu. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. » Comme il approcha, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Ils tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens et qu'ils ne craignent de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui qui est grand. »
Amen. Merci, Luc. Ce matin, on va voir ensemble que comprendre qui est Jésus demande de saisir sa gloire, demande de comprendre sa mission et demande de comprendre notre appel, notre réponse à la personne de Jésus-Christ. Sans cela, je n'ai pas vraiment saisi qui est Jésus-Christ. Je n'ai pas vraiment compris qui est Jésus-Christ. Jésus prépare ses disciples à leur poser une question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que je suis au dire des hommes? Il se prépare à leur poser une autre question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Mais avant de faire ça, Jésus prépare le terrain avec cette séquence de miracles que j'ai résumé brièvement. Jésus calme les eaux. Lorsque tu lis l'Ancien Testament et tu es familier avec les Saintes Écritures, à un certain moment donné, quand tu additionnes les miracles que Jésus fait, tu dis, dans le fond, un des messages que Dieu est en train de communiquer, c'est que ce Dieu invisible de l'Ancien Testament, ce Dieu puissant de l'Ancien Testament qui a pris soin d'Israël de manière extraordinaire et surnaturelle, c'est lui qui est venu vers nous dans la personne de son Fils. Et si Dieu a séparé les eaux dans l'Ancien Testament lorsqu'il a libéré son peuple de son esclavage en Égypte, il a séparé les eaux d'une manière surnaturelle pour que le peuple puisse traverser le Jourdain. Jésus, lui, se lève pendant une tempête et simplement, en s'adressant aux éléments de la nature, qui est probablement aux yeux de plusieurs un des miracles les plus difficiles à croire de Jésus. Mais simplement en s'adressant aux éléments de la nature, Jésus prend autorité. Ensuite de ça, Jésus va manifester son autorité dans un monde qui nous est encore une fois invisible, un monde surnaturel, un monde qui nous dépasse. Si je crois en Dieu, si je crois que l'être humain a une âme, si je crois au bien et au mal, mais les Écritures me disent qu'il y a aussi un diable, qu'il y a aussi des esprits qui sont là, qu'on voit pas et qui pourtant affectent ce monde parfois de manière dramatique, souvent de manière totalement invisible. Mais là, il y a un moment où ce monde-là se manifeste. Et c'est pas une personne possédée par un démon, mais par une légion, nous dit le passage. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps d'aller lire chacun de ces passages-là à la lumière de ce qu'on va voir ensemble ce matin. Cet après-midi, cette semaine, juste prendre le temps de relire chacun des miracles et réaliser ce que Jésus est en train de préparer comme terrain. Mais Jésus a une autorité indéniable sur ce monde qui nous est invisible, ce monde spirituel. Ensuite de ça, Jésus va guérir une femme qui est malade depuis des années. Personne ne peut rien pour elle. Puis en fait, c'est même pas que Jésus intentionnellement décide de la guérir. Cette puissance divine qui est en lui est tellement présente que cette femme-là n'a qu'à toucher à son vêtement et elle est guérie automatiquement. Comme si je pouvais toucher à Dieu puis être béni, de m'approcher de Dieu, d'entrer dans sa présence. Et miracle par-dessus tous les miracles, Jésus ressuscite une jeune fille, ramène son esprit en elle. Jésus a autorité sur la mort, il a autorité sur la vie. Jésus envoie ses disciples, et ce pouvoir qu'il a en lui-même, il peut le donner à qui il veut. Ce n'est pas simplement un grand prophète qui a été envoyé qui a un mandat extraordinaire. Jésus donne le pouvoir à qui il veut, comme il le veut. Et ici, pour ceux qui savent que le livre des Actes, c'est la suite de Luc, on a une petite fenêtre qui s'ouvre sur ce qui va se passer dans le livre des Actes ici. Lorsque vraiment les disciples vont être mandatés d'aller annoncer par toute la terre la bonne nouvelle. Mais Jésus a ce pouvoir-là, tellement grand qu'il peut le donner à qui il veut, comme il le veut. Et enfin, dernier miracle de cette séquence-là, Jésus va multiplier les aliments et va nourrir le peuple, un peu comme Dieu nourrissait le peuple d'Israël en donnant la manne dans le désert. Dans ce passage-là, il y a une espèce de transfert. Quelqu'un qui assiste à ça, quelqu'un qui lit le passage tout du long jusqu'à la fin de ce que Luc nous a dit ce matin, on lit ça au complet, il y a une espèce de transfert. Et c'est ça qui s'opère dans le cœur des disciples qu'il y a là. Il y a une espèce de transfert de foi qui se passe en Dieu, l'éternel Jéhovah, ce Dieu invisible-là, quand même inconcret, qui va se transférer vers la personne de Christ. Si vous n'êtes pas familier avec le christianisme, si vous ne connaissez pas bien Jésus-Christ, vous pourriez même avoir l'impression, je vais prendre un vieux terme, que je suis en train de blasphémer. Je suis en train de dire, quoi, on va transférer notre foi en Dieu vers Jésus. Et pourtant, c'est l'intention de Luc, c'est là, Jésus fait les miracles que Dieu faisait dans l'Ancien Testament, que Dieu le Père faisait dans l'Ancien Testament. Jésus fait ces miracles-là, tour à tour, un après l'autre. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucun domaine qui n'est pas sous l'autorité de Jésus-Christ. Puis vient la question. Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Qui disent-ils que je suis? Élie, un prophète? Puis Jésus leur dit, oui, mais vous m'avez suivi à chacun de ces moments-là, vous avez vu mes interventions. Certains d'entre vous privilégiés, vous avez été même dans des moments où je faisais des miracles presque en secret. Qui dites-vous que je suis? Les autres évangiles nous disent que Pierre a reçu une révélation de Dieu à ce moment-là et Pierre a répondu, tu es le Christ. Tu es le Messie. Tu es le Sauveur. Tu es celui que Dieu nous annonçait qui serait envoyé pour sauver le peuple juif. Pierre n'a à peu près aucune idée de ce qu'il est en train de dire lorsqu'il dit ça parce qu'il n'a pas saisi toutes les prophéties dans l'Ancien Testament et l'ampleur de l'œuvre que Jésus s'en venait faire. Mais à la lumière des miracles qu'il a faits, une chose est claire plus que jamais. Jésus est bel et bien le Christ. Il n'est pas simplement un prophète. Très bien, tu as compris ça, Pierre. Maintenant, je vais vous amener sur la montagne de la Transfiguration. Tu as commencé à saisir ma gloire, je vais vous montrer ma gloire. Puis là, il s'en va avec quelques hommes, trois hommes, il les amène avec lui sur la montagne. Ils ont saisi que c'est le Christ, ils ont saisi que c'est le Messie, que c'était le Sauveur. Et là, Jésus va leur montrer sa gloire parce que dans ce moment-là, Élie va apparaître. Deux hommes vont apparaître à côté de lui, des grands hommes de la foi. Et ils vont voir la gloire de Jésus qui est en train de parler avec les plus grands. dans toute sa majesté. Mais à la fin complètement de ce passage-là, c'est maintenant le Père qui va parler. Et c'est super important parce que lorsque je parle de ce transfert-là, c'est le Père ici qui va le dire. Luc 9, 35, « Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. » Et donc, Dieu le Père, dans cette nuée, est en train de dire aux disciples, « Vous voulez marcher avec moi, vous voulez honorer Dieu, vous voulez connaître Dieu, écoutez mon Fils. Écoutez-le, c'est mon Fils élu. » Au baptême de Jésus, c'est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, obéissez-lui. Comprendre qui est Jésus-Christ, c'est saisir la grandeur d'un être qui dépasse tous les hommes, tous les prophètes, toutes les femmes qu'il y a eu sur la terre. Parce que c'est Dieu le Fils qui vient sur la terre, qui fait les miracles que Dieu faisait lui-même dans l'Ancien Testament. Et à un certain moment donné, dans mon cheminement, lorsque je réalise et je comprends qui est Jésus-Christ, il y a un transfert, il y a un transfert de ma foi en Dieu. Peut-être que tu es croyant, peut-être que tu crois en Dieu, peut-être que tu dis, oui, il y a un créateur à quelque part. J'ai toujours cru dans un Dieu, à quelque part, un designer, quelqu'un qui est derrière l'univers. Mais là, pourquoi le christianisme? Pourquoi Jésus-Christ plus qu'un autre? Pourquoi cette foi-là? Pourquoi ce ne serait pas Mahomet? Pourquoi ce ne serait pas Bouddha? Pourquoi ce ne serait pas quelque chose d'autre? Parce qu'un seul est la manifestation terrestre de la personne de Dieu. C'est Dieu le Fils qui vient sur la terre, qui fait les miracles de Dieu dans l'Ancien Testament. Et un seul a reçu cette bénédiction du Père, qui vient dire, celui-ci est mon Fils élu. Écoutez-le. Comprendre qui est Jésus-Christ demande à un certain moment donné dans le cheminement qu'il y ait un transfert de ma foi, où je réalise, non pas que j'arrête de croire en Dieu, non pas que j'arrête de croire dans Dieu le Père, mais je découvre que Dieu le Père est venu se manifester dans la personne de son Fils. Et il y a un transfert de ma foi qui se tourne vers Jésus-Christ. Tout à l'heure, on va assister à des baptêmes, ils vont être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que les Saintes Écritures nous parlent de la Sainte Trinité. Et donc, à un certain moment donné, comme croyant, je ne suis plus seulement croyant, je deviens chrétien. Parce que je suis le Christ, je deviens chrétien. Je veux suivre Jésus-Christ. Lorsque cette déclaration de foi de Pierre qui se passe, Jésus dit, « OK, vous avez compris que j'étais le Christ, vous avez compris que j'étais le Sauveur. Vous avez commencé à voir ma gloire, vous avez commencé à voir que vraiment c'est moi qui vais vous faire connaître le Père. Mais si vraiment vous voulez saisir qui je suis, vous allez devoir comprendre ma mission. Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? » Oh, ils ne comprendront rien pantoute. Jésus parle, puis ça rentre par une oreille, ça sort par une autre. Il va falloir qu'ils le voient vraiment pour le saisir. Mais quand même, Jésus-Christ manifeste sa gloire sur la montagne. Et ensuite de ça, il révèle sa mission. Il leur révèle sa mission. Et voici ce qu'il leur dit. Luc 9, 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme, il se présentait régulièrement comme le Fils de l'homme, souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Un petit peu plus loin. Luc 9, 44, 45. « Pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Il y avait un temps pour vraiment qu'ils saisissent qui est Jésus. Mais une fois qu'ils ont saisi la gloire de Jésus, une fois qu'ils ont saisi que Jésus est glorieux, Jésus leur dit, « Si vous voulez me connaître vraiment, vous allez devoir comprendre ma mission. » Vous allez devoir comprendre que ma mission est de quitter cette gloire-là. Ma mission, ce n'est pas toujours d'être en train de marcher sur les eaux. Il y en a qui m'ont taquiné tantôt et ont dit, on pourrait tester ça ce matin, Yannick. Tu marcheras sur les eaux. Une fois qu'ils ont vu la gloire de Jésus, Jésus leur dit, maintenant ce que vous allez voir, c'est ma mission, c'est mon humilité. Je dois aller jusqu'à la croix. Et donc, si tu cherches un sauveur, si tu cherches un Dieu merveilleux, puis que tu es perplexe parce que tu dis « Oui, mais celui en qui tu crois, il est mort sur une croix. » Commence par saisir sa gloire, puis saisis sa mission. Vous savez, mourir sur une croix, c'était la manière la plus humiliante, la plus décadente de traiter un criminel. C'est ça que les Romains faisaient. C'était, à quelque part, super banal comme mort. Ça voulait dire que tu étais un des pires criminels. On te pendait au bois, tu étais nu, pendu là pendant des jours. Ça pouvait prendre 7, 8, 9 jours, 10 jours avant que tu meures. Tu étais sur le chemin, sur la route. Parfois, les Romains crucifiaient comme ça des criminels sur la voie romaine, sur la route. Tu pouvais en traverser 8, 10, 12. Comprendre qui est Jésus me demande de saisir sa gloire et de comprendre qu'il renonce à toute cette gloire-là pour se charger de sa croix puis aller mourir sur une croix. Parce que c'était ça sa mission. Jésus devait devenir, être traité comme le pire des criminels. C'est ça qu'il leur annonce. Afin que nos crimes à nous, nos péchés, nos fautes devant Dieu, nos offenses à Dieu, nos offenses aux hommes, nos méchancetés, nos égoïsmes, nos cruautés, nos hypocrisies, nos violences, ils les prennent sur lui. Ça tombe sous le sens. Si un être aussi glorieux, aussi grand, doit prendre sur lui-même tous nos crimes, qu'il soit traité comme le pire des criminels. Ça tombe sous le sens. Comprendre qui est Jésus me demande de saisir sa gloire, toute sa beauté, me demande ensuite de ça, de saisir sa mission. C'était sa mission d'aller mourir sur cette croix. Mais je n'ai vraiment compris qui est Jésus que lorsque je saisis quel est mon appel. Qu'est-ce que les hommes sont appelés à offrir comme réponse devant ce glorieux, cet être merveilleux, incomparable, qui apaisait les eaux, qui ressuscitait les morts, qui chassait les démons, qui parlait avec une sagesse comme aucun homme a parlé. Je comprends qui est Jésus vraiment seulement lorsque j'ai saisi quelle est la réponse que les hommes doivent donner à cet être-là glorieux qui avait une mission complètement humiliante, mourir sur la croix comme un vulgaire criminel. Je n'ai pas encore saisi qui est Jésus si je n'ai pas compris quelle est la réponse que je dois donner à Jésus. Quel est mon appel? C'est pour ça que j'ai aimé ce passage-là. Si vous regardez dans vos Bibles la séquence qu'on a ici, ça m'a frappé, ça m'a saisi de voir que Jésus manifeste sa gloire, il montre sa beauté, il montre sa grandeur, puis là, après ça, il leur pose une question. « Qui suis-je selon vous? T'es le Christ, t'es le Sauveur. » Bien! Je vais vous expliquer c'est quoi le Christ, c'est quoi le Sauveur. C'est celui qui meurt sur une croix pour vos péchés. Vous pensez que ma gloire, c'est de venir puis de tasser les Romains de là. Ma gloire, c'est de me promener à tous les jours, de faire des miracles, de marcher sur les eaux, de toujours être en train de faire des choses glorieuses. Je vais faire la chose la plus honteuse pour l'être le plus grand. Je vais devenir un criminel. Je vais être traité comme un criminel parce que je vais prendre vos crimes sur mes épaules. Et tout de suite après, dans la séquence, dans le passage, après leur avoir dit cela, Jésus leur dit au verset 23, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, vous pensez me connaître, si vous pensez avoir saisi que c'est moi le Christ, vous voulez me suivre maintenant, on va prendre la mesure de ce que vous avez saisi de moi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Comprendre qui est Jésus-Christ, c'est comprendre que que Jésus, ce n'est pas juste un prophète. Le christianisme, ce n'est pas une foi ou une religion de sagesse, de bons principes pour mettre de l'ordre dans ta vie. C'est saisir que Jésus est le Christ. Il est Dieu, le Fils, qui vient marcher parmi les hommes. Comprendre qui est Jésus-Christ, c'est de comprendre que malgré toute sa gloire, toute sa beauté, sa mission était d'être traité comme un vulgaire criminel. C'est pour cela qu'il venait sur la terre. Et s'il venait faire ça sur la terre, c'était pas pour te montrer simplement à renoncer à toi-même. C'est parce qu'il devait prendre tes fautes, tes crimes, tes mensonges à toi sur lui-même. Il devait être traité comme un criminel. Mais aussi comprendre qui est Jésus-Christ vraiment, c'est de saisir que la seule réponse censée à donner à Jésus, c'est de décider de le suivre. C'est de décider de le suivre. La foi chrétienne, c'est une foi où j'apprends à renoncer à suivre mes propres ambitions, premièrement. La vie chrétienne, c'est une foi, une conviction que ce que Dieu veut pour moi est meilleur que ce que moi je veux pour moi. C'est pas tendance, là, ce que je vous dis, vous comprenez? C'est comme pas cool comme patente. Je vois des podcasts, je vois des livres de School of Greatness. On fait sortir toute la gloire, toute ta beauté. Tu vas devenir quelqu'un de grand. Puis Jésus vient et il dit, si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Renonce à toi-même et suis-moi. Il y a vraiment dans le christianisme une décision, je vais prendre un terme pas très connu aujourd'hui, d'abnégation, où je renonce à me mettre en premier et je choisis de devenir second et de suivre Jésus. Mais l'image que Jésus prend ici est encore plus forte que ça. Il dit qu'il se charge de sa croix. Alors voyez-vous, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait avec les criminels? Non seulement on les crucifiait, les pires criminels, mais on leur faisait porter leur croix. Un petit peu de renforcement positif pour éduquer la populace, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas finir sur une croix. Regardez qu'est-ce qu'on fait avec les criminels. Les gars sont flambant nus ou pratiquement, et ils portent eux-mêmes l'objet de leur peine de mort, leur croix, à travers la ville jusqu'à l'endroit où on va les crucifier. Et tout le long, la foule s'en donnait à cœur joie de les mépriser, de les haïr. Et Jésus dit, tu veux venir après moi? Chaque jour, tu vas accepter de ne pas être compris. Pensez-vous que Jésus était compris lorsqu'il est en train de traîner sa croix? Oh wow, c'est hot, continue encore un petit pas de plus, tu t'en vas sauver l'humanité, on est avec toi, vas-y mon Jésus! Pas même ça se passait. Totalement incompris. Il était maudit. Les gens qui ont cru en lui, en le voyant faire ça, ont dit, aïe, aïe, on s'est trompé. On pensait qu'il était hot, il n'est pas hot, pantoute. Me charger de ma croix tous les jours, c'est renoncer à être compris dans mes décisions. C'est renoncer à recevoir les applaudissements des gens autour de moi. C'est renoncer à ce qu'on vienne me voir et qu'on me dise, « Ah, wow, Yannick, c'est vraiment bon. Tu sais, tu fais les bons choix. C'est beau, je suis avec toi. On est tous avec toi. » Et c'est le faire chaque jour de ma vie. Chaque jour de ma vie. Pour suivre Jésus. Quelqu'un a dit un jour, « Suivre Jésus ne signifie pas que je vois tous les jours des miracles. » C'est ça la leçon qu'il y a dans ce passage-là. Jésus les fait toutes les miracles. Les disciples sont envoyés, ils guérissent les malades, ils chassent des démons. Vous lirez les actes pour voir si ça se passe comme ça tous les jours après. Ah, la vie chrétienne, c'est ça, je vais voir les pouvoirs de Dieu, je vais voir des miracles à tous les jours. Suivre Jésus ne signifie pas que je vois tous les jours des miracles ou que je passe toutes mes journées sur la montagne de la transfiguration à contempler la gloire de Jésus. Suivre Jésus, ça signifie que je renonce à moi-même tous les jours. Je me charge de ma croix et je le suis. Et il y a quelque chose de glorieux dans ça, parce que je sais qui je suis en train de suivre. Je suis en train de suivre celui qui a pris ma croix pour mes péchés, ma condamnation. Je suis en train de suivre celui qui a déjà accompli tout ça pour mon salut. Je suis en train de suivre celui qui est ressuscité des morts le troisième jour. Je suis en train de suivre celui qui est à la droite du Père. Je suis en train de suivre celui qui va revenir bientôt. C'est pour ça que le Nouveau Testament va dire à la fois aux chrétiens, renonce à toi-même, charge-toi ta croix tous les jours, puis en même temps, soyez toujours joyeux, car c'est la volonté de Dieu. Comment on fait pour être joyeux tous les jours quand je renonce à moi-même à tous les jours? C'est parce que je sais qui je suis en train de suivre. Je sais qui est mon sauveur, je sais qui est ce Jésus. J'ai vu sa gloire, j'ai compris sa mission, je connais sa gloire à venir. C'est ça, suivre Jésus. Et à ce moment-là, je trouve en Christ, en Jésus-Christ, la force à tous les jours de renoncer à moi-même, de me charger de ma croix et de le suivre. Suivre Jésus, c'est renoncer à ces sentiments de vengeance et de colère parce que j'ai été traité injustement. Je me charge de ma croix. Je renonce à moi-même. C'est refuser de m'apitoyer sur moi-même parce que les gens autour de moi ne me donnent pas tout le respect que je mérite. Moi, je suis celui qui portait une croix pour qu'on le pende sur cette croix-là. C'est décider de vider le lave-vaisselle, même si c'est moi qui le fais plus souvent que mon frère à la maison. C'est travailler avec application et avec excellence au travail, même s'il n'y a pas de reconnaissance, parce que je le fais premièrement pour celui qui a porté une croix pour moi. C'est prendre le risque de reprendre un frère dans la foi, même si ça veut dire que je vais être rejeté, parce qu'il s'est égaré loin de Christ et a arrêté de suivre Jésus. C'est servir dans ma communauté, dans un petit groupe en mission ou seul, simplement pour manifester l'amour que Christ qui s'est donné pour moi. Puis il s'est donné plus qu'en donnant son temps. Il s'est donné en donnant sa vie. Je vais aller donner mon temps pour servir dans ma communauté, simplement pour témoigner de l'amour de Dieu. C'est faire les bons choix pour garder mon cœur et mes yeux quand je me promène sur le web. Parce que je suis en train de suivre celui qui a donné sa vie pour moi, qui a quitté sa gloire pour moi. C'est avoir le courage de demander de l'aide quand je lutte avec la pornographie parce qu'il n'y a rien de trop honteux pour que je m'humilie pour suivre celui qui a été humilié jusqu'à porter la croix pendu nu au bois. Je suis pris dans le péché. C'est pas trop honteux d'aller demander de l'aide. C'est me réjouir quand Dieu appelle les ferlants, les godins à partir à l'autre bout du monde pour aller servir le royaume de Dieu. Puis être content quand il y a des gens qui vont servir ailleurs puis juste avoir participé à leur croissance un peu et bénir à l'extérieur de cette église. C'est faire le pas de foi de m'investir dans la vie de 2-3 personnes pour étudier la Bible ensemble et faire du coaching. C'est continuer à prier avec foi pour le salut des gens de ma ville, pour ma famille, même si ça fait 10 ans, 20 ans que je prie et j'ai pas vu de fruits encore. C'est choisir de me lever le matin une heure plus tôt pour rencontrer Dieu, rencontrer Jésus qui a porté la croix pour moi, dans la prière puis dans la lecture de la parole. Et c'est faire tout ça avec joie. Pas parce que j'essaie de gagner mon ciel, parce que j'ai vu sa gloire, j'ai compris sa mission. Et j'ai décidé de le suivre, j'ai compris mon appel. Suivre Jésus en renonçant à moi-même, en me chargeant de ma croix tous les jours. Et en le suivant. Ça commence par se faire baptiser. Suivre Jésus. Par le baptême, je décide d'afficher ma foi en lui. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. J'ai connu sa gloire, j'ai connu sa mission, j'ai compris son appel. Je veux en témoigner publiquement en passant par les eaux du baptême. C'est ça, suivre Jésus. Et peut-être que ça peut te sembler malsain. Tu te dis, tu sais, c'est juste un déni de ta personne. Non, c'est parce que je sais qui est Jésus-Christ, je sais quelle est sa mission et je sais qui je suis. Je suis un chrétien. Je suis un chrétien qui suit celui qui est mort sur la croix pour moi, qui est ressuscité le troisième jour. Je l'ai su au jour où j'ai décidé de me faire baptiser. 20-quelques années plus tard, je le sais encore. Quand je me lève le matin, puis je dis, il y a des défis dans cette journée-là, Je sais pour qui je me lève. Je ne me lève pas pour moi. Je ne sors pas de mon lit pour Yannick. Pour the greatness of Yannick. Je sors de mon lit pour la gloire de Jésus-Christ parce que je suis un chrétien. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut bénir et adorer ton Fils comme les mages l'ont fait. On veut bénir cet être glorieux que tu es, Jésus, qui a quitté sa gloire, sa majesté, sa splendeur, et qui a renoncé à toute cette gloire pour aller mourir sur cette croix. On veut t'adorer ce matin parce qu'on a compris qui tu es dans toute ta beauté. On a saisi, Seigneur, que c'était ta mission de mourir sur cette croix, et nous avons cru dans ta résurrection. Et Seigneur, ce qu'on veut dire ce matin à travers les chants, à travers les baptêmes, à travers nos louanges, à travers notre joie ici ce matin, Seigneur, c'est que joyeusement, on veut renoncer à nous-mêmes, nous charger de notre croix tous les jours cette semaine, Seigneur. Et on veut simplement te suivre, Jésus. Amen. Amen.